Courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonessence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour, auditrices et auditeurs de Caladma Radio. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Courant Porteur. Bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Alors aujourd'hui, au sommaire de l'émission, nous accueillons Isabelle Petit-Demange, des Mains pour Grandir.
Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Alors Isabelle accompagne des femmes et la naissance. Et également, elle a une envie de lieu pour plus tard. Ça, ce sera donc la première partie de notre émission. Et dans la partie savoir, nous abordons un élément incontournable de l'entrepreneuriat.
Le business plan.
Voilà.
Ou le plan d'affaires en français.
Dans l'émission juste avant, donc du mois dernier, on a parlé du modèle économique. Et souvent, d'ailleurs, on confond modèle économique et business plan.
C'est encore un jargon de créateur d'entreprise, ça.
Et voilà, carrément. Mais c'est pour ça que c'est important de le vulgariser, de le faire comprendre, connaître. Voilà, mais tout d'abord, on va parler de toi, Isabelle. Qui es-tu? Quel est ton parcours?
Alors, qui je suis? Vaste sujet. Je suis issue du monde littéraire, parce que j'ai fait un bac littéraire, et j'ai toujours eu un attrait pour la nature. Vous comprendrez pourquoi j'en parle après. J'ai aussi évolué dans un milieu plutôt sportif, avec un gros investissement dans des clubs de gymnastique. Ça, c'était à l'adolescence. Et puis, j'ai fait des études pour faire de la coordination de projet en ONG. Donc, j'ai pas mal voyagé à une époque de ma vie. Je me suis investie aux quatre coins du monde avant d'atterrir dans une réserve naturelle pour 6 mois à Lyon. Vous comprendrez aussi pourquoi j'en parle après.
Quel suspense.
J'ai fait un master 2 gestion de la planète, rien que ça.
Je ne savais même pas que ça existait.
Si, ça existe, à Nice.
Yes.
Puis je me suis installée à Lyon avec mon époux. J'ai eu 3 enfants. Et j'ai construit ma situation professionnelle. Donc ma situation professionnelle a commencé avec une envie d'œuvrer dans ce qu'on appelait à l'époque les agendas 21. Donc j'étais vraiment axée environnement. Et puis mes grossesses, ma première grossesse notamment, a tout fait basculer. Dans le sens où ma première grossesse a commencé, puis les suivantes m'ont encore ramenée à mon histoire personnelle. Et c'est à ce moment-là que je me suis orientée vers l'envie de développer une activité en lien avec le toucher et la nature. Il faut savoir en fait que moi j'ai un passé en tant qu'orpheline. J'ai perdu mes parents très jeunes. Ma mère a 10 ans, mon père a 14 ans. Et ça m'a amenée en fait à ressentir et à vivre très profondément. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me définit. Qui me définit peut-être pas, mais c'est mon empreinte. Un manque de lien et de toucher. Une certaine carence affective que j'ai été du coup chercher tout au long de mon parcours. À travers justement l'entreprise que j'ai créée. Enfin, disons que l'entreprise que j'ai créée m'a permis de
nourrir ce besoin-là.
Voilà, exactement.
Je rappelle le nom, qui est quand même tout à fait significatif, des Mains pour Grandir.
Voilà, exactement. Donc, comment j'en suis arrivée à créer des Mains pour Grandir? Donc, j'ai créé des Mains pour Grandir en novembre 2012. Mon aîné, qui a 15 ans aujourd'hui, mon fils aîné, est né en 2010 et il se trouve que tout allait bien dans ma vie de maman, en dehors du fait que j'étais plutôt fatiguée avec plein de projets, enfin ça c'est moi, chez...
ça c'est toi ça,
voilà, à avoir toujours plein de choses sur le feu, plein de choses à déployer, toujours un petit peu à la limite de l'énergie que j'ai à donner et à dépenser. Et là, du coup, j'avais à la fois une activité en tant que salariée d'animatrice de débat au sein d'une association qui s'appelait Les Petits Débrouillards, et à la fois, du coup, mon rôle de maman qui était en train de se mettre en place. J'étais une toute jeune maman à l'époque, et j'allaitais mon bébé. Il faut savoir qu'avant cette phase d'arrivée de mon bébé, j'ai passé 14 mois de chômage. Et durant cette longue période de chômage... un bébé est arrivé et je me suis projetée dans ma vie de maman avec ce bébé en me disant, puisque je ne travaille pas, je vais pouvoir lui donner tout l'amour et l'attention dont il a besoin. Et mon envie est de l'allaiter pendant 6 mois à temps plein. C'était non négociable pour moi et j'avais envie d'une parentalité très proximale. Dormir près de mon bébé, le porter, l'envelopper, l'allaiter. Et il se trouve que j'ai rencontré, qu'au bout de 6 mois, à me mêler ma vie professionnelle et ma vie de maman, j'ai frôlé le burn-out. Voilà. J'en ai parlé avec mon médecin de l'époque, qui n'était pas du tout branché parentalité proximale. Et ce médecin m'a dit, arrêtez de l'allaiter, il dormira mieux et vous irez mieux.
Ok.
Voilà. J'ai suivi ses conseils à la lettre.
Ouais.
Et j'ai sombré dans ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'une dépression postpartum.
T'as fait ton postpartum 6 mois plus tard, toi.
Voilà. Alors, il se trouve, j'avais les hormones en ébullition, que j'ai fait mon retour de couche juste à ce moment-là, et que du coup, j'étais en chute hormonale de folie, et que je me suis du coup perdue au milieu de tout ça. De là, s'en est découlé une perte de ma relation avec mon bébé, une perte aussi de relation avec mon mari, parce que du coup, je ne savais pas où aller, je ne savais plus où donner toute cette affection, tout cet amour en fait, que je ressentais. Et j'ai eu la bonne idée, à ce moment-là, d'ouvrir un livre de massage pour les bébés. J'ai ouvert ce livre j'ai posé mon bébé sur le lit, j'ai commencé à le masser et j'ai retrouvé ce lien que j'avais perdu en le sevrant. Et alors là, ça a été l'illumination et je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça à d'autres mamans parce que je ne dois certainement pas être la seule maman à traverser ça et à chercher du lien avec mon bébé, à être un peu en perte de sens. Et le massage est un moyen de retrouver ce sens et de retrouver ce lien qu'on peut perdre avec son enfant, avec dans son couple et même avec soi-même, parce que en parallèle je me faisais accompagner et que je me suis aussi faite masser et que je me suis rendu compte que à moi aussi ça me faisait beaucoup de bien.
Donc c'est des mains pour grandir pour soi, pour sa relation aux autres et à ton bébé notamment.
Exactement, c'est exactement ça. Donc l'aventure de Des Mains pour Grandir a commencé à travers le massage bébé. Je me suis formée et puis ça a été une aventure de 2 années à donner des ateliers de massage bébé. J'avais beaucoup de succès. Et en parallèle, du coup, j'ai eu envie d'aller plus loin et d'accompagner les mamans. Parce que je me suis dit, le cœur, c'est quand même le bébé, c'est bien, mais la maman, c'est quand même la personne qui tient le lien, sur laquelle tout repose. Et ce serait très chouette de pouvoir aussi prendre soin de la maman.
Beaucoup de choses, effectivement, reposent sur la maman, mais pas que.
Exactement. Tout à fait, on est d'accord. Du coup, j'ai ouvert les portes d'une école de massage et je me suis formée au massage ayurvédique, puis au massage prénatal-postnatal pour accompagner plus globalement la maman, mais aussi toute la famille, les enfants, mais aussi le couple et les hommes, puisque les papas aussi vivent une aventure de parentalité.
Je crois que...
Oui, on est d'accord.
Voilà. En parallèle de tout ça, je me suis aussi rendu compte que ce qui me faisait du bien à moi en tant que maman, c'était le lien à la nature. Et est née en parallèle de cette entreprise de massage que j'étais en train de créer, qui voyait le jour à l'époque, une activité en parallèle d'éveil à la nature. que j'ai proposé aux enfants dans un premier temps et que je mène du coup cette aventure, elle dure depuis, depuis fin 2012, début 2013. Voilà, donc je vous laisse compter le nombre d'années. quoi dire de plus ? Quoi dire de plus ? Un autre point de bascule que je peux poser. Je me suis aussi formée, au fil du temps, je me suis formée à beaucoup de choses. Je me suis formée au rituel Rebozo, qui est vraiment un rituel magnifique pour accompagner les mamans en postpartum, mais pas que. Et c'est là que je pointe le deuxième point de bascule ou étincelle dans ma tête. À l'arrivée de ma deuxième, c'est pour ça que je disais que mes enfants ont vraiment été le fil rouge de l'évolution de mon entreprise. À l'arrivée de ma première fille, du coup, il s'est passé quelque chose de très... je ne sais pas quel mot mettre dessus, mais très significatif dans ma vie, un moment très très fort de ma vie, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle une réminiscence traumatique. J'ai vécu, quand j'étais enfant, puis adolescente, un inceste qui a laissé beaucoup de traces dans mon cerveau et dans mon corps. Tout a commencé à se manifester à l'arrivée de ma première fille. Et ça a été une longue aventure pour me réapproprier mon corps, mon cœur, ma tête. Et là, vraiment, enfin, en dehors de tous les accompagnements que j'ai pu auprès desquels j'ai pu piocher pour me reconstruire, je me suis vraiment rendu compte aussi que le toucher était un outil assez fabuleux et que le rituel Rebozo peut aussi contribuer à passer ce type d'étape et poser des intentions quand on traverse des phases de reconstruction. Après des réminiscences traumatiques. Voilà. Et c'est là aussi qu'est apparu mon autre dada, qui est les huiles essentielles.
C'est une écurie.
C'est une écurie.
Merci déjà pour ta transparence et ce que tu oses expliquer.
Je pense que ça peut servir à d'autres. Du coup, les huiles essentielles ont vraiment été d'un soutien incroyable à ce moment-là. Et là, comme pour le massage bébé, je me suis dit, incroyable, il faut que je puisse le transmettre et que je puisse utiliser cet outil.
Mais c'est bien sûr.
Dans mon cabinet. Et c'est comme ça qu'est arrivé tout simplement les soins holistiques que je donne aujourd'hui à mon cabinet, qui sont des soins aux huiles essentielles, qui sont bien spécifiques, que j'ai créés et qui permettent d'accompagner toutes les femmes et les hommes aussi qui passent le pas de la porte de mon cabinet.
Alors, holistique, c'est global en fait.
Holistique, c'est global.
On entend ce terme souvent, on se fait des idées, mais en fait, c'est juste un accompagnement global.
Alors, ça permet en fait d'accompagner, moi c'est ce que je dis souvent, on accompagne l'aspect psychique, physique et l'aspect énergétique aussi. Et il y a vraiment, moi j'ai vraiment aujourd'hui ce que je peux accompagner, c'est avec mes mains, les huiles essentielles et l'énergie, parce que je fais un travail aussi avec l'énergie, et mes rebozos. Toutes ces femmes qui viennent à mon cabinet peuvent transformer, déposer.
L'émotionnel aussi.
Voilà, l'émotionnel. Des choses qu'elles traversent et qu'elles ont à déposer grâce à ces outils-là.
Et d'ailleurs, tu en as fait un jeu. Jeu de cartes des huiles essentielles avec les émotions, enfin, de ce que ça
tout
peut permettre d'améliorer.
Oui, tout à fait.
Du coup, est-ce que tu avais encore quelques éléments sur ton parcours ?
Non, je crois que j'ai fait le tour.
Non seulement tu as fait le tour, mais tu as devancé les questions des points de bascule, donc je ne te repose pas de questions sur ton point de bascule. Je ne sais pas si je te pose la question du rêve à l'origine de ton engagement, quand même, parce que tu l'as beaucoup exprimé en termes de parcours, mais peut-être est-ce qu'il y a un rêve à l'origine ?
Je crois que mon rêve, vraiment, c'est d'ouvrir des espaces et de créer un lieu dédié au bien-être. Ah. Et connecté à la nature.
On vient au lieu. Très bien. Du coup, ce lieu, ce serait quoi ?
Alors, je peux vous le décrire ?
Tu peux nous le décrire.
Je peux vous le
Vas-y,
décrire.
Vas-y, décris le rêve.
Donc, le rêve, c'est des chèvres.
Ah, je crois qu'on peut te présenter quelqu'un qui a envie de chèvres aussi.
Des chèvres, des poules, des lapins. Non, bon, c'est des animaux, en gros. C'est une petite ferme. En fait, c'est un lieu qui serait dédié aux vivants et qui permettrait en fait aux femmes, enfin moi j'accompagne surtout des femmes et leurs familles, mais c'est ouvert aussi aux hommes bien évidemment, un lieu qui permettrait à tout un chacune de se relier aux vivants à travers la présence et le contact à la nature, aux animaux et aux plantes.
C'est une sorte de médiation animale ?
Alors, il y a une sorte de médiation animale avec les animaux, même si moi, je ne suis pas formée, mais on peut faire des choses même sans être formée, je pense. C'est aussi de la médiation via les plantes. Enfin, on parle de médiation animale, oui. Mais voilà. La connexion aux plantes et à leur esprit. Tu parlais tout à l'heure de mon oracle. L'oracle s'appelle l'esprit des plantes. Et c'est vraiment avec l'esprit des plantes que je travaille. Pour que les personnes que j'accompagne puissent se connecter au vivant végétal. Voilà. Et c'est aussi la connexion à soi et à son intérieur à travers le toucher. Voilà. Donc toujours du massage, toujours des soins, toujours des enveloppements et aussi des rituels. Voilà. Dans ce lieu, il y aurait tout ça. Moi, je visualise des yourtes. Mais ça peut être des tipis, pourquoi pas, mais en tout cas des espaces dédiés avec des activités pour les enfants, des activités pour les mamans, des activités ou des espaces pour se déposer, des séjours pour les mamans, des séjours pour les couples, des séjours parents-enfants.
Et puis des soins. De basculer dans le pitch, là.
Pardon.
Non, mais c'est parfait, tu fais les transitions toute seule. C'est...
Magnifique, il n'y a plus besoin d'animatrice.
Voilà, et puis des soins, évidemment.
Bon, est-ce que tu te sens de faire un pitch, du coup, qui résume tout ça ?
Un pitch qui résume tout ça. Oui, qu'est-ce que je dirais comme pitch ? Que l'idée, le projet, c'est vraiment de créer ce lieu dédié au vivant, de connexion au vivant, qui passe du coup par... je viens de le dire.
C'est ça. Plein d'expériences autour du massage, du lien vivant, que ce soit les animaux, les végétaux. Et voilà.
C'est ça.
Ok, super. Courant porteur. Eh bien, merci Isabelle pour ton parcours, pour avoir été aussi transparente, d'avoir osé témoigner. Si on élargit un peu le cercle, qu'est-ce qui t'anime dans l'écosystème local ? Parce que tu es quand même aussi intégrée dans un écosystème local, voire même pas que local.
Alors, qu'est-ce qui m'anime dans l'écosystème local ? Donc déjà, moi, je fais partie de plusieurs réseaux d'entrepreneuses. Ce que j'aime beaucoup, c'est les réseaux de femmes entrepreneuses, parce que je trouve qu'en tant que femme, on n'entreprend pas comme le font les hommes et que on a des problématiques qui ne sont pas les mêmes que les hommes. Donc, il y a le collectif Entreprendre du Val-de-Saône, dont je fais partie. Il y a le réseau des rêveuses entrepreneuses qui a une antenne locale sur Lyon, mais qui est un réseau national en fait. Il y a Saunaissance évidemment, la tribu Saunaissance.
Yes.
Évidemment. Et après, il y a aussi le réseau des pros de la périnatalité, où on se rencontre une fois par mois aussi, et qui me permet d'être en lien vraiment avec des professionnels autour de la sphère de la naissance. Voilà. Après, il y a aussi la MJC de ma commune, à Neuville-sur-Saône, puisque j'anime un club nature à la MJC de Neuville-sur-Saône. Et qu'il y a d'autres choses qui peuvent éventuellement émerger. On a imaginé d'autres choses. Voilà, pour le moment, il y a ça. Il y a aussi les professionnels du paramédical et du médical sur Neuville-sur-Saône aussi. C'est un groupe dont je fais partie. Et qui partagent aussi des activités à Neuville-sur-Saône, des événements plutôt, avec le... l'association des commerçants de Neuville-sur-Saône. Voilà. Ça fait déjà pas mal de, d'endroits. C'est les endroits où j'échange le plus, où je partage le plus et où je peux rencontrer, échanger, partager, puis développer des choses.
Oui, donc tu es très active au niveau local et dans le transversal par rapport à tes différents métiers.
Oui, c'est ça.
Ton cabinet existe depuis combien de temps à Neuville ?
À Neuville, depuis 2019.
Donc tu passais des amis avant ?
Oui, et puis des personnes. En fait, je m'exerçais sur mon activité, on va dire. Voilà. Mais j'ai réellement installé mon cabinet fin 2019.
Super. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as vécu avec Sonnaissance, le lien que tu as avec nous, avec le programme ?
Alors, Sonnaissance, c'est une belle aventure pour moi. Ça m'a permis à un moment clé de ma vie, je dirais, où il y a quelque chose de plus grand qui s'est ouvert, mais où j'étais un peu hésitante, frileuse, et où surtout j'avais pas frappé à la bonne porte. C'est-à-dire que j'avais l'opportunité de créer un beau projet en lien avec la nature et le bien-être, mais malheureusement, la personne avec laquelle je travaillais n'était pas la bonne personne. Voilà. Donc c'était pas une phase forcément très facile pour moi. Vraiment, Sonnaissance m'a permis, à travers son accompagnement sur les journées, mais aussi en individuel, de déployer toutes les ressources que j'avais pour poser ce projet, pour le décortiquer, le décrire, et aussi pour regarder à l'intérieur de moi et me rendre compte que j'avais finalement, contre toute attente, enfin en tout cas me concernant à l'époque, que j'avais toutes les ressources à l'intérieur de moi pour faire émerger ce projet. Voilà, mais je pense que j'y serais pas. Enfin, en fait, je ne serais pas parvenue à rédiger aussi clairement et rapidement, parce que ça s'est fait très rapidement tout ça, ce projet, si j'avais pas eu cet accompagnement de Sonnaissance. Quoi. Ça m'a donné le socle, en fait. Enfin, un petit peu oui, c'est ça. Le socle qui m'a permis de me déployer.
Je me rappelle, après chaque séance, c'est comme si on appuyait sur un bouton et derrière, tu déroulais. C'était assez impressionnant. Et du coup, pendant cet accompagnement, avec cette perspective de lieu, tu as pu déployer effectivement, et on parlait dans une émission précédente, des parcours utilisateurs, les parcours utilisateurs de toutes les offres de ce que tu pourrais déployer, que tu fais déjà, et que tu pouvais du coup mettre dans un lieu. Quoi.
Ouais, c'est ça.
C'était très chouette. Comment tu te vois dans 5 ans ?
Dans 5 ans, alors moi, j'ai toujours un truc, c'est que donc j'ai 3 enfants dans ma vie qui ont actuellement 9, 12 et 15 ans et qui occupent quand même pas mal d'énergie dans ma vie. Donc plus le temps passe et puis plus j'ai d'espace pour moi, on va dire. Donc dans 5 ans, j'en aurai encore plus. Je visualise ma dernière qui aura 14 ans à ce moment-là.
Incroyable. Tu parlais de gymnastique pour toi, mais en fait, je crois que tu as des enfants aussi qui sont assez impliqués.
Ouais, c'est ça. J'ai 2 filles gymnastes et ça m'occupe pas mal. Donc, ça sera, du coup, si on visualise, ça sera 14, 17 et 20 ans.
Tu auras un espace de fou.
Voilà, un espace de fou. Alors, d'autres problématiques, évidemment. Les parents qui ont des enfants de cet âge-là me comprennent.
Il paraît.
Mais je visualise du coup beaucoup plus d'espace, donc plus d'espace de couple aussi, et plus d'espace du coup pour déployer ce que j'ai envie, donc le lieu. C'est vrai qu'ouvrir un lieu, ça demande quand même de l'énergie.
Je crois,
ouais. Ouais, je crois aussi. Du coup, je le visualise bien, ce lieu, dans 5 ans. Je visualise bien un lieu avec des chèvres qui sautent et je reviens aux chèvres et des lapins qui gambadent. Je me vois bien m'occuper des animaux à temps partiel. Je vois une ferme pédagogique itinérante qui va dans différents lieux. Je vois des séjours qui se déploient. Petit à petit, je vois un lieu qui se construit, parce qu'il faut du temps aussi pour construire un lieu. Donc je me verrais bien, là je suis dans une phase de ma vie où je suis mi-salariée, mi-entrepreneuse. C'est une phase qui va se terminer dans 2 mois. Et du coup, je me vois bien commencer à poser les bases de ce projet à l'été là, qui arrive, l'été, la rentrée. Et du coup, dans 5 ans, j'ose imaginer que le lieu sera... posé, avec des financements certains, avec un modèle économique qui commence à tourner, voire qui tourne déjà, une clientèle qui s'est installée aussi. Je vois bien aussi les partenaires avec lesquels je travaillerai, parce que c'est évidemment pas toute seule que je vais construire tout ça. Donc je vois bien un ou une binôme en particulier sur ce qui, avec lequel ou laquelle ça se passerait très très bien. Mais je vois aussi tout le reste, en fait. Voilà.
Super. Tu viens presque de nous raconter ton business plan. Donc on va pouvoir te remercier, Isabelle, pour la présentation de ton parcours, de ton magnifique projet également, et passer à la rubrique de fond.
Courant porteur.
Initiative et résilience d'un territoire. Alors, le business plan. Je me réjouis à l'avance de vous parler de quelque chose d'aussi...
Réjouissif.
Réjouissif. Allez, amusons-nous avec le business plan. Alors oui, c'est aussi un incontournable de l'entrepreneuriat. C'est presque le premier document qu'on vous demande quand vous allez voir un financeur, votre banquier ou tout interlocuteur de l'entrepreneuriat. C'est un document qui est formel, qui est écrit, qui est assez long, mais aussi parce que c'est l'aboutissement de toute votre réflexion et de tout le travail que vous aurez fait en amont sur chacun des éléments qui vont le composer, chaque élément de votre projet. Donc, si vous êtes capable de faire votre business plan, vous êtes capable d'expliquer l'activité que vous allez avoir, l'entreprise que vous allez faire. Et que vous le rédigiez ou non, et ben en fait, il y a un fil rouge, et je crois que tu l'as très bien décrit, Isabelle, il y a un fil rouge à trouver dans toute votre activité qui va faire le lien avec tout ce que vous allez créer, mettre dedans, entre toutes les parties, y compris financière, mais pas que. Parce que souvent, on assimile le business plan au prévisionnel. Ou alors, on croit que c'est le modèle économique. Mais non, le business plan comprend tout ça, mais également d'autres choses. Donc, en français, on dit plan d'affaires. Mais tout le monde connaît plutôt le business plan. C'est un document qui est écrit et qui présente en détail votre projet de création. Les grands éléments, ça va être... Quels sont vos objectifs de votre projet entrepreneurial? Quelle est la stratégie pour atteindre ces objectifs? Quels sont les moyens et les ressources mobilisées? Quelles sont les prévisions financières? Le chiffre d'affaires, mais aussi le résultat, le besoin en financement? Et quelles vont être les analyses du marché, de votre organisation et votre modèle de revenus? Il sert à structurer votre projet, à tester sa faisabilité, et à convaincre des partenaires ou des financeurs, comme des banques ou des investisseurs, de soutenir ce projet. En résumé, c'est la feuille de route stratégique et opérationnelle de votre projet.
Ça fait office de document passe-partout que toute partie prenante vous demande. Donc c'est quand on crée une activité, un peu incontournable, quoi.
Ça me paraît une bonne idée, passe-partout. Parce que c'est effectivement une clé qui permet d'ouvrir pas mal de portes. Un peu d'histoire, comme ça on met le business plan qui est assez rébarbatif pour beaucoup avec l'histoire, qui n'est pas forcément non plus la matière la préférée des Français. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est super intéressant quand même de se pencher sur l'histoire, de revenir au concept. Pareil, la formalisation d'un projet, ça existe depuis longtemps, on le disait aussi pour le modèle économique, même si ça ne s'appelait pas ainsi. Dès l'Antiquité, il y a des écrits commerciaux qui faisaient office de planification. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais l'usage moderne et structuré du business plan s'est fortement développé après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 47 à 53. Avec la croissance économique en Occident, il y a eu un besoin de planification et de financement structuré. Et les premières sociétés de capital risque exigent des business plans détaillés. Alors, c'est quoi une société de capital risque? C'est des sociétés qui permettent alors je vais donner encore un terme financier, pas forcément très, très facile, des financements de haut de bilan. Donc tout ce qui est achat-revente de sociétés, des opérations de levée de fonds, on appelle ça des leverage buyouts, mais ça ne va pas vous parler. En gros, c'est des opérations qui permettent de faire des effets de levier financier pour racheter des entreprises. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand il y a ces gros projets, qu'il y a besoin de faire des regroupements d'entreprises, donc que les entreprises grossissent pour arriver à perdurer, et que ben, il y a de la mondialisation qui arrive, et ben, il y a des besoins de ces business plans détaillés. Ensuite, dans les années 70, il y a des programmes académiques qui l'intègrent dans leur cursus entrepreneurial, notamment la Harvard Business School, mais en France également, dans tous les cursus financiers, voire d'entrepreneuriat, de management à l'époque, on disait. Et ensuite, dans les années 90 et la bulle Internet, le business plan devient souvent très volumineux, parfois irréaliste, et il contribue malheureusement à des dérives du marché avant l'éclatement de la bulle Internet. Aujourd'hui, le business plan est souvent vu comme un outil vivant, adaptable, actualisé au fur et à mesure de l'avancement du projet entrepreneurial et de son interlocuteur. Tout ça pour dire qu'on doit en faire un à chaque fois qu'on voit quelqu'un, il s'adapte à son interlocuteur, mais également à chaque grande étape de vie de son projet. À quoi sert un business plan ? Ça remplit plusieurs fonctions essentielles. Un, ça permet de clarifier et de structurer son projet. Je peux vous dire que quand vous êtes à la rédaction de votre business plan, effectivement, ça vous oblige à avoir cette rigueur de poser à la fois les intentions, les chiffres, tout ce que vous avez exploré. Et donc, il oblige l'entrepreneur à penser chaque aspect du projet. Marché, stratégie, organisation, finance. Il doit être vendeur et il doit rassurer. La deuxième chose, c'est qu'il doit convaincre les partenaires financiers. Banques financeurs, banques investisseurs, plateformes de financement, et elles attendent tous en fait un dossier clair pour évaluer les risques et la viabilité du projet. Donc il doit être réaliste, même si c'est un plan sur l'avenir. Votre projet, c'est du sérieux, de l'intéressant, et ça doit montrer que ça apporte quelque chose. Donc vous devez le construire à partir du terrain, de ce que vous avez vraiment, que vous êtes vraiment allé explorer, valider, mais également des recherches et des analyses que vous avez faites. C'est un outil de pilotage interne, puisqu'il permet d'anticiper les étapes du reste à faire, de mesurer la progression et d'ajuster les décisions si nécessaire. Et le dernier élément, c'est qu'il permet de présenter une vision stratégique complète. Il combine le modèle économique, l'étude de marché, la stratégie commerciale, de quoi est constituée l'équipe et la gouvernance, mais également des projections financières. Courant porteur. Alors, un résumé typique d'un business plan. Sachant que vous pouvez y mettre de la créativité. On a eu autant des artistes que des personnes beaucoup plus, entre guillemets, rationnelles. Ça ne veut pas dire que les artistes ne le sont pas, mais qui sont plus, je ne sais pas comment dire, peut-être scolaires. Donc pour vous dire qu'effectivement, votre business plan, il a des incontournables, mais néanmoins, vous pouvez y mettre votre patte, votre créativité à vous. Il y a toujours un résumé exécutif qu'on appelle l'executive summary au départ, qui est sur un recto verso. C'est la synthèse de votre projet. Donc il est au début, mais souvent, vous le faites à la fin, quand vous avez posé tous les éléments. Et derrière, on va avoir une description de l'entreprise que vous voulez faire, du projet, avec ses objectifs, ses valeurs, ses visions. Sa vision, puis l'étude de marché, donc quelle est l'analyse du secteur, les besoins clients, la concurrence. Je vous donne les éléments classiques et après je vous donnerai les nôtres, ceux qui sont plutôt issus de l'économie sociale et solidaire, des business plans sociaux, l'économie circulaire, etc. Donc, analyse du secteur, besoins clients, concurrence, ça c'est l'étude de marché. Votre stratégie marketing et commerciale, quel est votre positionnement, quels sont vos canaux de distribution, quels sont vos prix. Ensuite, l'organisation et le management. Donc, on parle évidemment de l'équipe en place, également de partenariat et comment sont répartis les rôles et responsabilités. Le plan opérationnel, donc quel est le mode de production, vos fournisseurs, votre logistique, en gros, c'est quoi la chaîne de valeur de votre produit ou de votre service. Quel est le plan financier prévisionnel, Donc, on retrouve les états financiers classiques, un bilan compte de résultats, mais aussi les états d'investissement, vos besoins, puisque le business plan, si vous avez des financeurs en face de vous ou un autre interlocuteur, de toute façon, il y a besoin de dire ce que vous attendez d'eux, en fait. Donc, quels sont vos besoins ? Et ne pas oublier le plan de trésorerie, parce que le plan de trésorerie, c'est aussi ce qui fait état du décalage qu'il peut y avoir entre des paiements clients-fournisseurs, le paiement de la TVA, etc. Donc, très important pour donner de la visibilité sur votre connaissance de ces processus-là qui sont très impactants pour la viabilité d'une entreprise. Et enfin, des annexes qui peuvent être des documents complémentaires. Typiquement, tu parlais de lieux. Une des personnes qu'on a certifiées récemment a un projet de lieu pour l'aidance. Et elle avait déjà imaginé son lieu, elle avait déjà fait son plan de comment étaient le bâtiment, les différents espaces, ressources, etc. Et du coup, dans son annexe, on a eu une magnifique maquette de son lieu. Comment se présente un business plan social ? Parce que vous vous en doutez, maintenant vous nous connaissez un peu, nous on a été chercher comment on pouvait avoir quelque chose qui fasse état de nos envies d'être positif en termes d'impact autant sur les gens que sur notre environnement. Donc on a adapté et on est allé chercher en fait un business plan social. Voilà. Il est un peu différent, mais pas tant que ça, dans l'exécutif summary qu'on va retrouver, notre résumé opérationnel. On a plutôt décrit un constat au départ, donc qu'on a appelé le besoin. Donc c'est quoi l'analyse de la situation existante ? Exemple, tout le monde n'a pas accès à un logement décent. Ensuite, on a la vision, ce qui rejoint notre notion de contribution, à quoi on a envie de contribuer. Donc là, il propose une vision de ce que cela devrait être dans l'idéal. Pour notre exemple, ça va être tout le monde a accès à des conditions d'habitat décentes. Troisièmement, ça va être la mission, la raison d'être. C'est l'objet de la structure, ce pourquoi elle est conçue. Dans notre exemple, ça va être permettre à des personnes vivant dans des conditions de logement précaires et inhumaines d'accéder à un logement salubre et agréable. L'intention, ce qui reprend les objectifs, ce sont les actions à mettre en place pour que cette structure remplisse sa mission. Je reprends notre exemple. Mobiliser des fonds pour acheter des appartements loués. Ensuite, à loyer modéré dans des quartiers mixtes. On va ensuite exprimer ce que c'est que les valeurs. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent l'organisation et comment elles vont être appliquées, respectées dans son mode de fonctionnement, et quels sont les principes d'action que ces valeurs amènent. Les cibles, on parle toujours de pour qui. Donc là, on n'est pas seulement sur le terme de client, mais on va aller chercher aussi d'éventuels usagers ou bénéficiaires. Qui sont les principales cibles au sens large, mais ça peut être également, quand on pense à l'intégration des communautés locales, comment eux également vont bénéficier de notre projet. Et pour tous ceux qui pensent et qui essayent de donner une identité aussi à des lieux naturels, ça pourrait être aussi quel est le bénéfice au regard de ces identités-là. Sur le marché, on est sur quel marché spécifique, géographique, mais également quelle niche professionnelle on est basé. Et puis, les intentions de réalisation, donc quelles sont les ambitions de développement, comment le projet va se déployer dans les 3 à 5 ans. Dans nos modèles de l'économie sociale et solidaire, ou dits sociaux, les 5 premiers éléments font souvent l'objet d'une charte qui est co-construite avec des parties prenantes, parce que déjà, il y a des prémices de gouvernance, si possible, partagées, qui sont ouvertes sur l'écosystème local. Quelles sont les questions à se poser pour cette vision, mission, etc. C'est pour la vision, quelle vision de la société sous-tend le projet ? Pour la mission, à quel enjeu de société le projet veut-il répondre ? Dans les objectifs, quelle action répondant à cet enjeu le projet propose-t-il ? Quoi, quand et où ? Et en termes de valeur, quelles valeurs doivent être respectées sur la manière d'atteindre l'objectif ? Deuxième partie de notre business plan social, l'analyse d'opportunités. La pertinence du projet, il s'évalue en termes de capacité de ce projet à répondre à des besoins clairement identifiés, mais également à trouver une cible adéquate et dans la complémentarité, sa différenciation, son innovation par rapport à ce qui existe. Donc, à la fin de cette partie, le lecteur du business plan social doit être convaincu de la plus-value sociale apportée par le projet et du fait qu'il répond à un besoin réel de société. L'analyse de marché, que nous, on appelle une exploration marché, est composée des éléments significatifs qui montrent la pertinence du besoin, de la réponse apportée et du potentiel marché. Nos cibles, on en a déjà un peu parlé, donc c'est pour nous des segments de clientèle, mais c'est aussi la cartographie des parties prenantes. On va présenter les différentes personnes à qui on va s'adresser et également, de manière plus large, quelles sont les personnes qui sont impactées par notre projet et quelles sont les personnes, physiques ou morales, qui impactent le nôtre. Donc, on parle bien sûr d'objectifs simples, mais également d'objectifs complexes, puisqu'au sein de ces cibles, il nous convient de distinguer, comme on l'a dit, ceux qui consomment et ceux qui bénéficient du produit et service. Quels sont les points saillants du marché, du client et du projet ? Dans cette analyse d'opportunité, on va expliquer les particularités de votre marché, notamment peut-être potentiellement sa saisonnalité. Quelles sont les caractéristiques particulières de votre clientèle ou de la manière dont vous voulez les adresser ? Et comment on va les prendre en compte pour prévenir les questions sur des freins, des risques par rapport à votre projet. Quelques questions à se poser. Ben, peut-être la première, c'est pourquoi est-ce une bonne idée ? Donc, ça, c'est pas forcément à écrire, mais c'est peut-être à vous poser pour vous régulièrement. En quoi c'est une bonne idée et en quoi ça reste une bonne idée au fur et à mesure de l'avancement ? Quels sont les éléments du contexte qui font que ce projet est pertinent ? On est sujet à des changements d'environnement et de réglementation qui peuvent mettre en question l'identité du projet ou sa forme. À quels besoins il répond et comment vous avez évolué, comment ces éléments ont évolué dans le passé et jusqu'à présent, comment ils risquent d'évoluer à l'avenir. Je vous invite déjà à faire quelques éléments de veille. Et puis, bien sûr, ça fait partie de l'état de l'art, c'est-à-dire l'état de la connaissance sur un sujet et de vos projections sur l'avenir. Quel changement de société ce projet propose-t-il ? Et avec vos hypothèses en termes de cause et effet ? Et puis, quels sont les fondements de ce projet ? N'hésitez pas à sourcer vos informations, c'est-à-dire à mettre vraiment les références d'où viennent vos données, d'où viennent vos chiffres, parce que ça assoit un discours et ça donne de la crédibilité. Donc il vaut mieux parfois 3-4 chiffres qui sont vécus, sourcés, qui sont cités, plutôt que beaucoup de blabla qui partent de rien. Donc il faut à la fois ça et à la fois des chiffres aussi probants sur votre marché. Par exemple, j'ai interrogé tant de personnes, voilà les trois principaux résultats que j'ai avec tant de personnes interrogées. Les éléments qui sont décrits ici sont le résultat de ce qu'on appelle, nous, effectivement, l'exploration marché. L'entrepreneur est invité très rapidement à aller rencontrer le terrain, des vrais interlocuteurs pour son projet. Pas seulement des clients, mais également des partenaires, des fournisseurs, potentiellement des prescripteurs. On est sur une logique d'un outil qui s'appelle le MVP, Minimum Valuable Product, un produit minimum viable. C'est un principe qui vient de la méthode agile, qui dit qu'il vaut mieux aller rencontrer son marché, voir quels sont les retours concrets et s'adapter par itération à partir de quelque chose de très peu formé plutôt que de déployer énormément d'énergie à avoir un produit ou un service au top, mais qui finalement ne rencontre pas sa clientèle.
L'exploration marché est aussi une phase cruciale pour avoir plein de retours pertinents et de pouvoir peut-être parfois infléchir pour pouvoir découvrir des modèles économiques ou des manières de le présenter ou des prestations un petit peu qui pourraient être à côté et qu'on n'avait pas vu, enfin voilà, des nouvelles idées et parfois une réorientation, parfois une confirmation de son projet ou parfois à l'inverse une infirmation. Si tous les interlocuteurs disent non, ça marche pas parce que blablabla, faut voir quelle est la nouvelle voie. C'est la manière de se confronter à l'écosystème.
Oui, c'est toujours... c'est pas forcément évident pour certains, mais c'est essentiel, effectivement, pour avoir des retours sur ce qu'on a imaginé, mais également, comme tu l'as dit, hein, d'autres inspirations. Et puis des fois, en fait, il y a un marché qui s'ouvre qu'on n'avait pas envisagé. On a aussi la caractéristique d'avoir des entrepreneurs qui ont un peu 3 milliards d'idées. Donc, dans quel ordre on les met ? Bah, des fois, en fait, c'est pas celle qu'on avait imaginée en premier qui s'ouvre. Mais c'est quand même hyper top, parce que ce qu'on veut, c'est des entrepreneurs durables. Donc, trouver une première ligne financière qui s'installe rapidement, c'est quand même le must. Voilà. Ce qui n'empêche pas de développer le reste plus tard. Un petit exemple pour vous représenter ce que c'est que ce minimum valuable product, c'est Airbnb, qui était parti avec une feuille, avec un dessin. Il y avait le dessin, voilà, là il y a une photo, là c'est le titre, ça parle d'un logement, là ça décrit à peu près le logement, là il y a un prix, voilà. Et puis la proposition, c'est que ce logement, il est mis à disposition de particuliers pour de la location temporaire, etc., de loisirs. Et donc, ils sont juste allés avec ce bout de papier, voir leurs potentiels clients, partenaires, etc., etc. Et voilà, ils sont partis d'une feuille de papier. Ça paraît assez incroyable au regard de ce qu'ils font aujourd'hui. C'est de toute cette exploration marché que va ressortir la logique et le positionnement de votre fameux mix prix-produit ou service par cible de clientèle ou de bénéficiaire. Le point suivant, l'équipe. Qui fait partie de cette équipe ? Alors, si vous êtes solopreneur, ce sera vous. Hein. Quelles sont vos compétences ? Là, on aime bien aussi mettre une carte mentale, une cartographie des ressources, des centres d'intérêt et des compétences de la personne. Donc, plug and play, on reprend les éléments et on le met dans son business plan. Vous pouvez mettre également vos motivations et puis également les rôles que vous avez détectés dans les parcours utilisateurs. Parce que si vous êtes solopreneur ou à plusieurs, c'est important de savoir qui va faire quoi. Et que ça montre aussi que vous avez pensé l'ensemble du processus. Et qui va tenir ce rôle et quel est son statut finalement dans l'équipe ou la gouvernance. Et la gouvernance, les modes d'organisation et de gouvernance, c'est la partie d'après. Comment vous allez vous organiser et quelle gouvernance vous avez prévue pour votre projet ? Vous devez indiquer également à cet endroit-là les potentiels ou les statuts juridiques que vous avez envisagés, qui sont possibles, avec leurs impacts en termes de fiscalité. Et puis, quelles aides vous pouvez avoir, donc l'ACRE, le CAP, les prêts d'honneur, France Active, peu importe. Il faut que vous montriez à cet endroit-là que vous avez aussi investigué les aides disponibles. Et puis... auprès de qui vous pouvez... c'est plutôt... Quel est le cadre réglementaire dans lequel vous vous inscrivez ? Puisque, suivant les métiers, vous avez des fois une obligation d'avoir une sorte de permis pour exercer. Et de toute façon, vous avez toutes et tous des contraintes liées à votre métier et une réglementation qu'il faut connaître. J'ai bientôt fini. Il reste quelques éléments à ce business plan social. Notre modèle économique, le modèle économique circulaire, évidemment, puisque notre activité va répondre évidemment à des enjeux économiques, mais également sociaux et environnementaux. Ils expliquent votre rentabilité et la prise en charge des impacts, y compris dans votre organisation et dans votre gouvernance. Le mieux, c'est effectivement de présenter un schéma de ce modèle économique et de l'expliquer quand... Voilà, en quelques mots. Vous avez, si vous voulez en savoir plus sur ce modèle économique circulaire, l'émission qu'on a faite récemment pour aller dans le détail. Derniers éléments, donc l'offre ou les parcours utilisateurs, c'est à partir des éléments de l'exécutif Siomari, votre marché potentiel et vos segments de clientèle, décrire ce que vous proposez et la valeur que vous apportez. Avoir une partie, si vous êtes justement dans cette notion de circularité, comment vous mesurez les impacts ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grandes entreprises et toutes leurs parties prenantes, donc ça veut dire quasiment tout le monde, doivent avoir un plan de vigilance avec quelles sont les actions qui sont mises en place pour prévenir les risques et donc qui comprend tous les risques climatiques, tous les risques sociaux. On n'est plus seulement sur du plan de vigilance à des risques financiers ou économiques, mais vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus large. Donc vous devez de toute manière avoir des éléments pour expliquer comment vous vous positionnez par rapport à ça. Stratégie marketing, bon, là on parle de vos modes de distribution et de communication. Comment vous vous faites connaître? Quels sont vos canaux d'acquisition de vos clients? Comment vous allez les fidéliser? Et comment vous allez vous adapter dans votre marketing, à la fois pour accroître votre impact social, mais également assurer votre viabilité financière. Donc, trois éléments dans cette stratégie marketing qui sont importants pour chaque segment de clientèle, ça va être vos canaux de distribution, le prix et la communication. Enfin, on en arrive à votre prévisionnel à 3 ans, ce que tout le monde adore.
Les chiffres,
voilà. On parle des investissements nécessaires, immobilier, les stocks, tous les travaux. Comment votre activité va monter en charge? Les coûts souvent arrivent plus vite que les revenus, donc montrez comment vous allez gérer cette étape de décalage qui est assez cruciale. Quels sont les modes de financement, les charges fixes et variables? Et là, on va évidemment avoir comme attendu votre compte de résultat, mais également votre bilan, votre plan de financement et le fameux plan de trésorerie dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il prend en compte les décalages de règles entre les règlements et les paiements. On termine ce business plan avec la roadmap, le calendrier opérationnel. Il doit dire où vous en êtes et qu'est-ce qu'il vous reste à faire en grandes étapes. Donc un schéma, des étapes principales, une ligne de temps en fait temporelle pour détailler les étapes que vous avez déjà menées et celles qui sont prévues sur 1 à 3 ans. Et selon votre interlocuteur, vous devez évidemment leur dire ce que vous attendez de lui ou d'elle. Conclusion, le business plan social, c'est pas seulement un document financier ou stratégique, c'est le fil rouge de votre projet, celui qui relie votre vision, votre mission, vos valeurs et vos actions concrètes. Donc, il touche au sens que vous mettez dedans, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il démontre que votre projet répond à un besoin réel de société, qu'il est viable économiquement et qu'il est organisé pour produire un impact social ou environnemental mesurable. Il constitue un outil de pilotage également, qui permet d'ajuster vos actions au fur et à mesure, de suivre vos indicateurs d'impact et de convaincre vos partenaires, vos financeurs et les parties prenantes de la pertinence de votre initiative. Donc c'est également un document de communication fort. Dernier point, il doit refléter la cohérence et la motivation de votre équipe, l'originalité de votre projet et la façon dont vous créez de la valeur pour la société, tout en assurant sa durabilité.
Eh bien, voilà un essentiel bien rondement posé. Grand merci pour tout ce savoir.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Tous les liens de l'émission sont disponibles dans la page de Courant Porteur. Isabelle, des coordonnées à nous transmettre pour te joindre?
Je les transmets là.
Oui.
Si genre, tu veux. Genre mon numéro de téléphone.
Non, peut-être pas. Mais ça peut être un site, ça peut être un mail.
Non, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Voilà. Desmainspourgrandir.fr. Et on me retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Voilà.
Voilà, on remettra toutes ces coordonnées dans la page de l'émission.
Merci Elisabeth.
Eh ben, merci à toi, merci Isa.
Merci à vous.
Isabelle. Et à très bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr, SAONE2SENCE.